La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Semaine de l'Art avec comme invité Guillaume Kins. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Didier.
Vous êtes conservateur au département des peintures du Louvre en charge de l'art espagnol.
Vous êtes de l'art espagnol, j'y tiens, portugais et latino-américain. C'est principalement, très majoritairement de l'art espagnol, mais il y a aussi deux tableaux portugais et un tableau de mexicain.
Eh bien, nous en parlerons certainement, puisque vous avez effectivement fait, il y a 2 ans, je crois, une exposition de peinture mexicaine.
Exactement, en 2013.
Vous êtes également le commissaire de l'exposition dont tout le monde parle actuellement, l'exposition Velázquez, la rétrospective Velázquez au Grand Palais, mais aussi, ne l'oublions pas, co-commissaire avec Guillaume Kins, Dominique Jacquot.
Avec Guillaume Caseroni, on nous confond souvent.
Avec Guillaume Caseroni, effectivement, parce que Guillaume Kins, ça ne le fera pas. Donc Guillaume Kins, Guillaume Caseroni, les deux, Guillaume K, comme on dit, Dominique Jacquot également.
Exactement.
De l'exposition Ribera à Rome, l'Apostolado.
Le premier Apostolado.
Voilà, dont nous parlerons également. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur Velázquez, qui n'accompagne pas l'exposition. Il y a le catalogue d'exposition et un ouvrage séparé qui parle de Velázquez peintre, dont nous aborderons dans cette émission.
Exactement, c'est un essai monographique sur Velázquez.
Voilà. D'abord, dites-nous, vous êtes un jeune conservateur, vous avez 35 ans, je crois.
34.
34 ans, excusez-moi, décidément, je suis très approximatif en ce début d'émission. Dites-nous, pourquoi vous êtes devenu conservateur, quelles études avez-vous faites, et pourquoi le Louvre ?
Eh bien, en fait, je suis devenu conservateur un peu par hasard, parce que après un baccalauréat littéraire, je ne savais pas exactement quoi faire. Mes parents m'avaient dit, si tu ne sais pas quoi faire, fais Sciences Po. Donc, j'ai passé le concours de Sciences Po. J'ai eu le concours de Sciences Po à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, qui était ma ville natale et la ville où j'ai fait ma scolarité. Et, Sciences Po dure 4 ans et je ne savais pas très bien quoi faire après Sciences Po. Il se trouve que j'avais un ami qui était passé de droit, d'un cursus de droit à un cursus d'histoire de l'art. J'ai su aller le rejoindre un jour, j'étais en avance, je suis rentré avec lui dans une salle de cours, c'était un cours de Philippe Lorenz sur la miniature médiévale à Paris au XIIIe siècle, et j'ai découvert un autre monde. J'ai pas découvert le monde des musées du patrimoine, mes parents nous emmenaient souvent dans les musées et visiter les monuments, mais j'ai découvert un monde disciplinaire, le monde de l'histoire de l'art, et très rapidement je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. L'année suivante, en parallèle de ma dernière année de Sciences Po, je me suis inscrit en licence d'histoire de l'art et j'ai été absolument passionné par cette discipline. J'ai été absolument passionné par les historiens de l'art aussi. J'ai découvert la figure de Charles Sterling à cette occasion, toujours à travers un cours de Philippe Lorenz. Et je me suis dit, mais en fait, ce que je veux faire, je veux avoir le même métier que ce Charles Sterling. Ce Charles Sterling était conservateur au département des peintures du musée du Louvre. Alors le hasard, je n'ai pas eu ça en objectif, en ligne de mire absolue, mais le hasard fait qu'aujourd'hui, j'ai d'une certaine manière réalisé ce projet.
Vous avez commencé comme conservateur des monuments historiques dans la région Auvergne.
Exactement. En fait, après un premier cursus, enfin une première année histoire de l'art à Strasbourg, je suis parti à Rome faire mon Erasmus, et au retour, après cette année à Rome, je me suis installé à Paris pour préparer le concours de conservateur du patrimoine, et j'ai été reçu dans la spécialité monuments historiques. J'ai ainsi passé 2 ans en Auvergne, à la DRAC d'Auvergne, pour m'occuper des monuments historiques.
Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience de 2 ans qui vous sert aujourd'hui au Louvre ?
Alors tout d'abord, c'est un métier très très dur que le métier de conservateur des monuments historiques. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est un métier de terrain, et étant arrivé à l'histoire de l'art tard, je me suis plus formé, je dirais, en visitant les monuments et les musées que en passant du temps dans les amphithéâtres des différentes facultés à Strasbourg et à Rome 3 à Rome. Donc le côté terrain m'a énormément passionné, le côté découverte. J'ai beaucoup travaillé sur la peinture en Auvergne. Quand je suis arrivé, tout le monde savait, enfin, tous mes amis savaient que j'étais passionné de peinture. Et on m'a dit, oh, ben, en Auvergne, c'est pas dit que tu trouves grand chose. Il doit pas y avoir. En fait, il y a énormément de choses en Auvergne. Et il suffit qu'on ouvre un peu les yeux.
Qu'on ouvre les églises aussi.
Et qu'on ouvre les églises, vous avez raison. Mais mes prédécesseurs s'étaient plus intéressés avec passion et talent et compétences à l'orfèvrerie, au textile, à l'architecture. J'avais plutôt une spécialité peinture. Donc, c'est la peinture que j'ai regardée. Et j'ai eu la chance, avec l'équipe avec laquelle je travaillais, de trouver beaucoup de tableaux.
Alors, au Louvre, vous êtes en charge de la peinture espagnole. Alors, c'est un accident, parce qu'il n'y avait pas de conservateur de peinture espagnole depuis très longtemps au musée du Louvre. Il y avait Olivier Mélec qui s'occupait de l'art anglais, enfin qui était en charge de l'art anglais, qui s'occupait également de l'art espagnol, mais il n'y avait pas de conservateur dédié. Donc, c'était quelque chose qui vous intéressait avant d'arriver au Louvre, ou vous êtes mis à la peinture espagnole? Je crois que vous étiez plutôt spécialiste de peinture flamande, hollandaise.
Alors en fait, j'ai un profil extrêmement ouvert, je suis très curieux de nature, et j'ai commencé à faire un mémoire à Rome sur le portrait cardinaliste, toute école confondue au XVIIe siècle, toute école confondue, donc aussi bien Velázquez d'ailleurs, il a fait un portrait de cardinal, que des artistes français comme Champagne, ou des artistes évidemment italiens. Ensuite, j'ai fait un master 2 sur les collections hollandaises, du musée Cranet d'Aix en Provence. Donc, j'ai travaillé sur la peinture hollandaise à ce moment-là. Et quand j'étais en Auvergne, évidemment, ce que je croisais le plus régulièrement dans les églises auvergnates, c'était de la peinture française. Donc, je me suis aussi mis, si je puis dire, je me suis aussi passionné pour la peinture française. Moi, ce qui me passionne, c'est la peinture. Après, les écoles, au fond, je ne veux pas dire que c'est secondaire, mais il faut d'abord que ce soit bien peint et que ce soit qu'il y ait une émotion qui passe par la rencontre avec la peinture. Le cheminement jusqu'à l'Espagne, c'est à la fois un accident et peut-être pas tout à fait, puisque lors de mon année Erasmus à Rome, c'était entre 2003 et 2004, je me suis beaucoup intéressé à un artiste qu'on considérait soit français, soit nordique, qui s'appelait alors le maître du jugement de Salomon, où on commençait à peine, où Gianni Papi commençait à peine à publier ses thèses selon lesquelles il s'agissait de Ribera, donc un peintre espagnol. Eh bien, j'ai dès ces moments-là commencé à suivre le cas du maître du jugement de Salomon qui finalement m'a conduit vers l'Espagne.
Alors, on y reviendra d'ailleurs au maître du jugement de Salomon avec Ribera, mais parlons d'abord de Velázquez, qui est donc l'actualité la plus, puisque l'exposition vient d'ouvrir. Comment est née cette exposition, l'idée de cette exposition Velázquez? Puisque finalement, on y reviendra aussi, le Louvre n'a pas, ou n'a pas vraiment, ou n'a peut-être pas, peut-être qu'il y en a un, mais on n'est pas très sûr qu'il serait déposé, on y reviendra, hein, mais il n'a pas de Velázquez, officiellement, il n'a pas de Velázquez. Donc pourquoi une exposition Velázquez à Paris?
Eh bien, en fait, quand je suis arrivé au département des peintures, il y avait un grand désir d'Espagne, si je puis dire, et on m'a demandé de réfléchir à un certain nombre de sujets sur l'Espagne, et puis plus particulièrement sur l'Espagne du XVIIe siècle, sur la peinture espagnole, pas seulement la peinture d'ailleurs, au XVIIe siècle. Donc j'ai commencé à réfléchir un peu, et c'est par la suite, comme nous avons de très bonnes relations avec le musée du Prado et des échanges très, très réguliers, c'est par la suite, en discutant avec mes collègues du Prado lors d'un déplacement à Madrid, que l'idée Velázquez a germé. Et je dois vraiment rendre hommage et rendre grâce à mes collègues espagnols. C'est eux qui nous ont, d'une certaine manière, incités à nous lancer à l'attaque de Velázquez, qui est un sujet peu naturel pour le musée du Louvre, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas de Velázquez absolument certain.
Alors avant de parcourir finalement l'exposition Velázquez, que je vais faire sur un certain nombre de questions autour de Velázquez, je voudrais dire d'abord que vous ne l'avez pas encore lu, puisque je n'ai pas encore écrit mon article, mais j'ai beaucoup aimé votre exposition, qui est à la fois une exposition pour le grand public, parce que le grand public y verra des œuvres magnifiques, des œuvres de Velázquez, mais c'est aussi vraiment une exposition pour les historiens de l'art, une exposition qui pose des questions. Velázquez finalement est un artiste assez bien connu, il y a quand même beaucoup de publications sur Velázquez, donc vous avez choisi, je pense que c'est ça, de ne pas vous contenter de montrer les plus beaux tableaux de Velázquez. D'ailleurs, c'est très difficile d'avoir uniquement les plus beaux tableaux de Velázquez, puisque une grande partie est conservée au Prado, qui n'en prête, je crois, que 7 en même temps. Mais vous avez réussi, d'une part, à montrer de très beaux tableaux de Velázquez, mais aussi des tableaux qui sont des nouvelles attributions, qui sont des hypothèses, ou bien qui tournent autour de Velázquez, on y reviendra. Par rapport à cette exposition que vous souhaitiez faire, vous avez dit, on sait qu'il y a quelques œuvres que vous n'avez pas eues, mais finalement, vous avez eu beaucoup de choses. Et est-ce que, par rapport aux propositions que vous faites, hein, dans le catalogue, c'est-à-dire il y a des attributs A, il y a des Velázquez, point d'interrogation. Alors d'abord, j'aimerais savoir que vous expliquiez pour vous la différence entre attribué A et Velázquez avec un point d'interrogation. La première chose. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des choses qui, à votre avis, ne fonctionnent finalement pas à l'expérience en regardant par rapport aux autres, ou est-ce que finalement toutes les hypothèses que vous faites, vous les validez après avoir vu l'exposition que vous avez conçue?
Alors tout d'abord, si vous le permettez, je vais réagir à votre premier commentaire. L'enjeu, effectivement, de cette exposition est multiple. Plus exactement, il y a plusieurs enjeux. Offrir une rétrospective complète au public français et au public international qui visite Paris, et une rétrospective claire qui montre l'évolution stylistique de Velázquez, une évolution stylistique qui n'est pas hors sol, qui est ancrée dans un contexte qu'on s'efforce de restituer. Il y a aussi l'enjeu, qui pour moi est une responsabilité, eh bien, de faire une exposition qui soit un bilan de 25 années de recherche sur Velázquez. La dernière grande rétrospective, c'est celle du Prado et du Metropolitan Museum de New York en 1989-1990. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de propositions ont été émises, et c'était le moment, une génération est passée, c'était le moment de refaire le point là-dessus et d'ouvrir aussi les nouvelles questions qui nourriront la recherche demain.
Il en avait une quand même, la National Gallery, mais qui n'était faite justement que de tableaux certains.
C'était une très belle exposition que celle de la National Gallery, mais plus du genre de l'exposition synthèse. Pas de la grande rétrospective, mais les espaces de Sainsbury Wing à la National Gallery n'offrent pas les mêmes potentialités, je dirais, que les larges espaces du Grand Palais.
Donc, l'exposition...
Je n'ai pas répondu à votre deuxième question
là, tout à fait, oui.
que j'ai oublié du
C'était quelles... Est-ce que vous êtes d'accord avec vous-même? Est-ce que toutes les hypothèses que vous faites dans le catalogue, est-ce que vous les validez maintenant, après avoir vu l'exposition? On sait que ça peut changer, parce qu'on fait des hypothèses, on voit le tableau les uns par rapport aux autres.
Exactement. Véritablement, l'exposition, c'est l'épreuve de la réalité. C'est le moment où les tableaux parlent et parfois contredisent les historiens de l'art. Et c'est ce qui s'est passé dans de faibles cas, heureusement, dans l'exposition. Mais j'ai deux exemples, par exemple, qui me viennent en tête, qui concernent la question de Juan Bautista Martinez del Mazo, qui est un peintre qui a longtemps été très sous-estimé et très négligé, et sur lequel j'essaye de mettre de la lumière maintenant. Il y a par exemple le portrait de l'impératrice, enfin pardon, de Marguerite, qui n'est pas encore impératrice, de l'infante Marguerite en deuil, qui est un tableau conservé au Prado, attribué à del Mazo, et je trouve qu'il ne cadre pas exactement avec le reste des portraits que nous exposons. Je le trouve plus sec. Peut-être s'agit-il d'un collaborateur de del Mazo. Peut-être aussi est-ce un problème d'État, mais ça fait partie des questions qu'on va discuter lors du colloque du 30 mai qui sera organisé à l'auditorium du Louvre. Et autre remise en question au moment de l'accrochage, c'est le tableau des offices, l'autoportrait de Velázquez des offices. Pardon. Qui est un autoportrait qui était considéré comme une copie pendant longtemps, qui a été restauré. La restauration a véritablement révélé ses grandes qualités picturales. J'ai été séduit par le tableau quand je l'ai revu à Florence. Il m'avait semblé tout à fait légitime de l'inclure dans le corpus de Velázquez. Et entre ce moment-là et le moment de l'exposition, s'est passé la rédaction du catalogue, s'est passé la réflexion, s'est passé beaucoup de choses. L'accrochage permet de voir énormément de peintures en un temps extrêmement concentré, et au moment de l'accrocher, eh bien, je suis maintenant persuadé qu'il y a l'intervention de del Mazo dans ce tableau, et que c'est très probablement un autoportrait de Velázquez laissé inachevé et complété, notamment au niveau des bras et au niveau des mains, par del Mazo. Les bras et les mains ou le gant sont absolument typiques du style de del Mazo. Ça peut paraître pour notre auditeur un peu surprenant que quelque chose saute aussi évidemment aux yeux, enfin à mes yeux en tout cas, maintenant, et ce n'était pas le cas il y a 3 mois, mais il faut que le regard se fasse, il faut que la familiarité avec les œuvres se fasse pour que les traits saillants d'un artiste, de la personnalité artistique d'un peintre, eh bien, nous deviennent justement évidents et qu'on puisse à ce moment-là le reconnaître.
Alors, vous me rassurez quand même, le portrait lui-même, du tableau, et quand même de Velázquez, parce que je veux dire que dans les tableaux qui m'ont assez convaincu, alors c'est vrai que j'ai moins regardé, finalement on est plus tendance à être attiré par la personnalité.
Non, bien sûr, je pense que le visage...
assez convaincant.
Je pense que le visage est sans doute une partie du costume et Velázquez, mais Velázquez avait l'habitude de laisser des tableaux inachevés. D'ailleurs, on a documenté dans son inventaire après décès un autoportrait laissé inachevé. Ça ne peut pas être celui-ci pour les questions de provenance, mais il est tout à fait logique d'imaginer que son gendre ait terminé un de ses autoportraits.
Ceci dit, on peut dire que c'est un portrait quand même de Velázquez, puisque il n'est pas illogique que, comme Rubens, César, quand il y a un atelier, un tableau inventé par l'artiste, peint en grande partie par l'artiste dans les parties principales, etc., bah c'est, même si une partie est terminée par l'atelier, c'est quand même un tableau qu'on peut dire autographe.
Oui, c'est un autoportrait de Velázquez, terminé par Martínez del Mazo.
Alors, maintenant, il y a quelques œuvres dont j'aimerais qu'on reparle, et après on fera peut-être on avancera dans l'exposition. Commençons avec Velázquez et la sculpture. C'est une problématique, comme ça on pourra parler de la première œuvre qui mérite d'être racontée d'ailleurs, c'est la Vierge de la Fondation Focus Albengoa, parce qu'elle a une histoire en partie française. Vous avez commencé, je trouve ça très, très, très intéressant, c'est une comparaison finalement entre les sculptures et les peintures au début de Velázquez, puisque donc il est l'élève de. L'élève de
Pacheco.
De Pacheco. Et vous nous rappelez que les sculptures étaient peintes par les peintres. Et
exactement.
Que peut-être que Pacheco donc, était associé à Martínez Montañés, qui est un des plus grands sculpteurs.
Le plus grand sculpteur andalou de la première moitié du XVIIe.
Voilà, et qu'il est possible d'ailleurs que Velázquez ait participé à certaines.
Il est plus que possible. Il est quasiment certain que Velázquez, comme d'autres élèves de Pacheco, ait mis la main à la polychromie de ses sculptures. Et sa peinture, ses premières peintures en témoignent. Il a une approche tridimensionnelle de la forme qui trahit une connaissance concrète, physique de la forme sculptée.
Alors il y a trois Immaculées Conceptions peintes en fait dans votre. Donc il y a celle de Velázquez de la National Gallery qui est bien connue, qui est indiscutable. Il y a celle de Pacheco. Alors est-ce que Pacheco n'a pas fait une meilleure Immaculée Conception que celle-ci, parce qu'elle est, honnêtement, par rapport à Velázquez, ça n'est pas du niveau.
Pacheco est un peintre assez médiocre, assez sage. Il peut avoir des grands moments, comme nous présentons par exemple deux portraits de Sainte Juste et Sainte Rufine, les deux patronnes de Séville, qui sont des tableaux sur bois. Le Saint-Pierre Célestin est très beau également. Il est plus froid, plus sage, plus ennuyeux, disons le mot, dans certains autres tableaux, dont le tableau de l'Immaculée Conception avec Miguel Cid. Mais c'est un tableau qui était intéressant parce que j'insiste sur le fait que Pacheco était inspecteur pour la Sainte Inquisition et qui contrôlait de là la fabrique des saintes images, et il codifie dans son traité l'art de la peinture l'Immaculée Conception. Par ailleurs, son Immaculée Conception laisse voir des monuments emblématiques de Séville, la Torre del Oro, la Riralda, à l'arrière, donc ancrant bien la défense de l'Immaculée Conception dans le contexte sévillan. Il y a un renvoi visuel à une vue panoramique de Séville qui est présentée dans la même salle où ces monuments emblématiques sont identifiés. Et par ailleurs, c'est une Immaculée Conception avec un portrait. Et la question du portrait, Pacheco est un bon portraitiste, encore meilleur en dessin qu'en peinture, et la question du portrait va être fondamentale pour Velázquez. Donc pour moi, c'était important d'intégrer cette dimension du portrait dès la première salle.
Alors, l'autre Immaculée Conception de Velázquez a été longtemps discutée. C'est donc effectivement celle de la fondation
Focus Albengoa à Séville.
Donc c'est un tableau qui est ressurgi sur le marché français, en fait, dans une vente aux enchères. Racontez-nous l'histoire de ce tableau.
Alors en effet, c'est un tableau qui ressort en vente aux enchères chez la maison Tajan en 1990, qui suscite une sorte d'émoi dans la salle, qui est acheté par un marchand, grand connaisseur d'art par ailleurs, qui y voit une œuvre de Velázquez et qui va le proposer comme un tableau de Velázquez. Malheureusement, il ne rencontrera pas une adhésion immédiate. Le tableau repassera en vente chez Sotheby's, je crois, et comme Velázquez, ne sera pas vendu. Alfonso Emilio Pérez Sánchez, qui était l'ancien directeur du Prado, une grande autorité sur la peinture espagnole, y voyant davantage la main d'Alonso Cano que celle de Velázquez. Donc c'est comme Alonso Cano que le tableau a été acheté par la fondation Focus Albengoa à Séville, qui par là a fait une très bonne affaire, si je puis dire, puisque le tableau s'est révélé, et la critique est quasiment unanime aujourd'hui, être une œuvre de Velázquez, sans doute l'une des toutes premières qu'il peint vers 1617.
Autre tableau du début, l'éducation de la Vierge de Yé. Là encore, c'est un tableau en grande partie ruiné.
C'est un tableau ruiné et lacunaire et fragmentaire, puisqu'il a été coupé sur plusieurs de ses côtés.
Et donc, mais c'est un tableau qui marche assez bien dans l'exposition, malgré tout.
Alors, les avis sont extrêmement partagés sur ce tableau. Il y a ceux pour qui ça n'a rien à voir avec Velázquez, ceux pour qui c'est évidemment Velázquez, mais la position médiane est assez, enfin, dans les quelques collègues et spécialistes qui sont passés, la position médiane est assez peu rencontrée.
C'est très étonnant quand même. C'est vrai que pour les néophytes, de temps en temps, ils peuvent se poser la question sur les historiens d'art, puisque des gens très compétents vont penser que c'est complètement de lui ou pas du tout. C'est assez étonnant.
Mais en fait, on se fait tous une image d'un peintre. Et la question, c'est de savoir si ce tableau rentre dans notre tableau de l'artiste. C'est une œuvre qui est à l'évidence liée au monde de Velázquez. Je pense que la figure de droite avec le Joachim...
De gauche, pardon.
Le Joachim, donc avec sa barbe, est un ajout postérieur dû à un collaborateur du peintre. Je trouve le tableau absolument impressionnant, absolument monumental. Je pense qu'il est raisonnable de le considérer comme attribué à Velázquez, en laissant cette nuance sur la question attribuée, qui n'est pas entièrement Velázquez. Je pense que c'est une œuvre qu'il faut, pour l'instant en tout cas, conserver dans le corpus de l'artiste avec cette conscience de cet aléa, en attendant qu'on comprenne un peu mieux. Ma différence par rapport différence par rapport à certains auteurs qui jugent qu'il s'agit d'une œuvre de Velázquez et donc peut-être même la première œuvre de Velázquez vers 1617, moi je considère que vu la monumentalité de la composition, vu la force plastique qui s'en dégage, ou plus exactement qui s'en dégageait, c'est un tableau plutôt adapté dans les années 1620. Et le fait que cela ne ressemble pas entièrement à Velázquez qu'on connaît, il me semble que c'est un peu trop facile de résoudre cela en disant c'est la première œuvre, donc c'est pour ça que Velázquez n'est pas encore Velázquez. Donc pour moi, c'est un tableau à situer vers les années 1620 et qui est très très possiblement de Velázquez. Alors la différence, pardon, pour répondre à votre question, entre attribué à Diego Velázquez et Diego Velázquez point d'interrogation, eh bien quand je suis pleinement convaincu et que la majeure partie de la critique va dans le même sens que moi, ou plutôt que je vais dans le même sens que la majeure partie de la critique, j'ai choisi de mettre Diego Velázquez, donc de considérer que les œuvres sont sûres. Quand l'œuvre est une œuvre discutée, dont j'assume à titre personnel l'attribution, mais je veux signifier par là que cette attribution est discutée, je mets attribué à Velázquez. Quand c'est une œuvre qui est acceptée comme Velázquez par un certain nombre d'experts, de bonne réputation, des gens sérieux, des bons connaisseurs, mais que personnellement j'ai des doutes, je mets Diego Velázquez. D'accord. Point d'interrogation. Donc ça peut paraître un tout petit peu byzantin ou sibyllin comme hiérarchie, mais c'est vraiment une démarche d'honnêteté, de clarté vis-à-vis du visiteur amateur comme du visiteur spécialiste. Il s'agit de montrer que l'histoire de l'art, c'est une matière vivante, que les doutes sont là et qu'on apprend d'ailleurs plus souvent de ces doutes que de ces certitudes.
Alors faisons un petit saut en avant. On a parlé de Velázquez et la sculpture. Donc on a vu les sculptures de Montañés et d'Alonso Cano d'ailleurs. Vous avez voulu exposer une sculpture également d'un artiste que je ne connaissais pas, Giovanni Battista Morelli, un élève de l'Algarde, parce que Velázquez l'a fait venir. Alors, je n'ai pas bien compris exactement pourquoi il se trouve là, cette sculpture.
Alors, oui, c'est un cas un petit peu particulier. Giovanni Battista Morelli est un artiste italien que Velázquez va recruter lors de son second séjour à Rome. C'est très important parce qu'il s'agissait de montrer, et on le montre à travers cette céramique et à travers le chenet de l'Algarde du musée du Louvre, Velázquez, le second voyage romain de Velázquez, en 1650, n'est pas plus un voyage de formation, mais Velázquez est agent de Philippe IV et doit acheter des œuvres et engager, recruter des artistes. Donc il va recruter Giovanni Battista Morelli, qui n'arrivera en Espagne qu'en 1659, mais cet artiste, ce sculpteur, ce stucateur, travaillera à la cour de France. Et en fait, son activité en France est encore très mystérieuse, encore très peu connue. Donc là encore, c'était pour moi une histoire de responsabilité que de montrer l'une des très rares œuvres conservées de Morelli à Paris, là où les spécialistes de la sculpture française sont présents en majorité, là où l'œil est le plus plus aiguisés pour bien reconnaître un style et voilà, et pour nourrir un peu la
recherche. Vraiment, c'était pour faire avancer un peu l'histoire de l'art, plus qu'un rapport avec Velázquez lui-même.
Bah, il y a un rapport avec... Non, l'idée, c'était de montrer que Velázquez a recruté des artistes. Après, si cette exposition avait été dans une autre ville ou dans un autre pays que la France, c'est une œuvre qui ne s'imposait pas du tout. Mais pour le coup, à Paris, de même que vous avez peut-être pu voir dans le catalogue, il y a un tableau qui passait comme de Martinez del Mazo, qui est dans une collection espagnole, que j'attribue à Simon Vouet. Je le fais parce que c'est un catalogue qui est publié en France, une exposition qui se trouve à Paris, et que Simon Vouet nous parle.
C'est dans la
notice sur le tableau de la Dulwich Picture Gallery. Voilà, juste,
alors pour être très franc, là. Comme les auditeurs le savent, pour écrire mes articles, je lis je voulais dire que j'ai pas encore eu le temps de lire tout le catalogue. J'ai lu une grande partie du catalogue, mais cette notice, je l'ai pas encore lue complètement. Et effectivement, il y a une distribution assez mouvée qui intéressera, je pense, pas mal les historiens d'art français diront oui ou pas.
Qui diront oui ou pas, on verra. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est évidemment parce qu'on est à Paris, parce qu'on est en France.
C'est page 336 du catalogue.
Oui, c'est le catalogue numéro 110 du catalogue.
Alors, continuons le parcours dans l'exposition. Alors, c'est très intéressant parce que vous distinguez le naturalisme de... le naturalisme de Velázquez, de l'influence du caravagisme. C'est vrai que on ne sait pas très bien d'où vient une... Il y a des tableaux qui sont pas très loin de Caravage, mais on n'est pas sûr que ça vient finalement de Caravage. C'est plutôt des modèles communs, des modèles italiens communs, qui font que Caravage, d'un côté...
Pas forcément des modèles italiens. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que et naturalisme et caravagisme sont des constructions intellectuelles d'historiens de l'art et ne sont pas des réalités vécues par les artistes au moment même. Hein. Sans nier que, pour le caravagisme notamment, il devait y avoir un sentiment d'appartenance à une esthétique, mais qui n'était pas identifié comme le caravagisme, comme nous le faisons aujourd'hui. Faut comprendre aussi que cette historiographie a elle-même une histoire sur laquelle il faut porter un regard critique et que la construction, principalement par Roberto Longhi, du caravagisme a eu tendance par la suite à devenir une clé d'interprétation un peu trop générale l'émergence d'une peinture de la réalité en Europe. Or, les choses sont, comme à chaque fois, plus complexes que cela, et le cas de Velázquez le montre bien, parce que son naturalisme sévillant, qui est forgé d'une tradition picaresque originaire d'Espagne, qui est forgé formellement par une connaissance de la gravure nordique et de peinture nordique qui était légion à Séville dans sa jeunesse, qui était formé aussi par un luminisme qui était connu en Espagne à la fois par un goût pour la peinture vénitienne très, très ancien et par des solutions luministes que des peintres comme Sánchez Cotán, par exemple, célèbre peintre de nature morte, avaient déjà mis formellement en place avant même que Caravage soit caravagesque dans un certain sens. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que Velázquez avait les ingrédients de ce naturalisme à sa disposition et n'avait pas besoin du truchement de Caravage. Et ce qui consolide un peu cette proposition, c'est que justement, il y a un moment très clair chez Velázquez où l'on voit l'influence de ce caravagisme et qui n'a pas du tout les effets attendus par l'historien de l'art. C'est-à-dire qu'au lieu de rendre le naturalisme de Velázquez plus brutal, plus violent, plus frontal, ce qu'il est déjà par lui-même au départ, eh bien non, au contraire, il va l'adoucir, il va le rendre plus élégant, plus mélodique. Pourquoi ? Parce qu'il va passer par des vecteurs que sont des caravagesques élégants, comme Cavarozzi, par exemple. Cavarozzi,
un
merveilleux Saint-Jean-Baptiste au désert, qui pendant longtemps est passé pour un Caravage d'ailleurs, mais c'est ce tableau qui va, par exemple, marqué Velázquez, de même que c'est le Saint-Pierre, les larmes de Saint-Pierre de Maynaud, un tableau récemment acquis par le Louvre, qui est un tableau plus lié au fond au caravagisme de Gentileschi qu'au caravagisme de Caravage, qui va faire passer le caravagisme dans la peinture de Velázquez. Donc ce fait que l'on observe dans la peinture de Velázquez une inflexion caravagesque qui ne ressemble pas à son naturalisme premier, va permettre d'affirmer un peu plus résolument cette distinction qu'il convient de faire entre la première manière de Velázquez et sa découverte de la peinture italienisante.
Et là, donc, il y a dans cette section, autour du caravagisme, entre guillemets, de Velázquez, avec toutes les nuances que vous avez indiqué, il y a un tableau aussi que vous avez qui était déjà attribué à Velázquez, mais qui, j'ai regardé sur le site de Chicago, hein, c'est Chicago The Art Institute, ce site n'est même pas, n'est même, enfin, il est comme anonyme espagnol. Je
sais anonyme sévillan.
Anonyme sévillan. Et en fait, que vous présentez là comme attribué à Diego Rodríguez de Silva et Velázquez, donc ça veut dire que vous-même, vous croyez à cette attribution. Je veux dire que, voyant l'exposition, moi, je veux dire que j'y crois aussi, mais bon, je ne suis pas spécialiste de Velázquez, mais en tout cas, c'est assez convaincant. Donc ce tableau, comment réagissent les spécialistes qui l'ont vu ?
Les spécialistes réagissent assez bien. Je pense que les dernières réticences vont tomber avec l'exposition, parce que le principal apport de l'exposition, l'attribution, est faite par Javier Portus, hein, dès 2007. Donc c'est une attribution ancienne dont n'a pas tenu compte effectivement l'Art Institute de Chicago. Mais ce qui posait problème, c'était la datation de ce tableau. Ce tableau était daté entre 1617 et 1625, ce qui au fond ne veut pas dire grand-chose, puisque l'artiste n'est plus le même. 1617, c'est la première année où il peint. 1625, il est installé à la cour, il a déjà beaucoup changé. Ce que je propose, c'est de situer ce tableau très précisément en 1623, à un moment où, juste après son premier voyage en Castille, où il a vu la nouvelle peinture que l'on pratique, que l'on aime en Castille, qui est cette peinture caravagère, cette peinture dite ressentie comme moderne est venue d'Italie, et avant son second voyage en Castille, avant son installation à la cour. Donc il rentre de son premier voyage en Castille en début d'année 1623, il passe quelques mois à Séville en 1623 avant de repartir définitivement. Je pense que c'est pendant ces quelques mois à Séville, puisque la toile est sévillane, la technique est sévillane, la préparation est sévillane, que Velázquez va exécuter ce tableau.
Alors, on aimerait citer beaucoup de tableaux. Moi, un tableau qui me fascine toujours, c'est Mère Jerónima de la Fuente. Donc, il y a deux exemplaires de ce tableau. Il y en a un qui est au Prado. Ce qui m'a fasciné, ça, c'est quand même, ça doit interroger et questionner, je ne sais pas si on peut dire ça, mais tous les conservateurs du monde, c'est que le Prado, il y a 40 ou 50 ans, a fait restaurer ce tableau. Et imaginant que le phylactère avait été annoté, enfin il y a un texte sur le phylactère, ce qui est d'ailleurs assez logique qu'il y ait un texte sur le phylactère, mais ils pensaient que c'était pas du tout, que ça avait été repeint après, donc ils l'ont enlevé.
C'est pas le texte qu'ils ont enlevé, c'est qu'ils ont essayé de faire disparaître le phylactère lui-même.
Ah oui, c'est le phylactère lui-même, c'est vrai. Quand on le voit encore le phylactère, on a l'impression finalement qu'il. Mais c'est vrai, quand on voit les photos comparatives, ils ont vraiment essayé d'enlever le phylactère. Alors que maintenant,
De très bonne foi.
Mais quand même, c'est on parle de restauration réversible, irréversible. Là, c'est une restauration qui était irréversible à l'époque.
Oui, mais la déontologie et l'éthique de la restauration.
J'espère qu'on ne ferait plus ça
déjà. Non, c'est certain qu'on ne ferait plus ça maintenant. Mais de toute façon, l'histoire de l'art est une leçon de modestie et la restauration est un exercice de prudence. Ce qui est très intéressant dans ce cas-là, malgré les dommages évidemment qu'a subi le tableau, c'est que on n'a pas compris le tableau. Et il faut toujours être, prudent sur ce qu'on comprend et ce qu'on ne comprend pas d'un tableau. On savait que c'était un portrait, on ne comprenait pas pourquoi un portrait ressemblait à une image de sainte. On a cru que ça avait été un ajout pour des questions dévotionnelles. On a voulu purger, ce qui est toujours très mauvais, le tableau pour revenir à une soi-disant pureté vélasquezienne. Or, l'histoire même de ce tableau, le message même de ce tableau, c'est que c'est une religieuse qui demande à ce que son portrait soit fait à l'imitation des images de saints, parce qu'elle entendait préparer sa vénération.
Donc, un peu en vain, d'ailleurs.
C'était un drôle de personnage. On a des récits assez effrayants. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un contresens extrêmement, extrêmement dommageable. Mais voilà, c'est les progrès de la recherche en histoire de l'art qui ont permis de mieux comprendre ce tableau, de mieux interpréter ce tableau. Donc il faut toujours respecter l'état dans lequel le tableau arrive, parce qu'il n'est pas impossible et qu'on n'ait pas tout compris.
Alors vous faites également une autre attribution, alors je ne sais pas si
elle n'est pas de moi.
Elle n'est pas de vous, mais vous l'endossez. Mmh. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tableau ne peut pas être de Velázquez. Ça, je pense que là, il y a
vous faites référence
Du père Simon de Rojas sur son lit de mort. Un très très beau tableau, d'ailleurs, je veux dire, vraiment un tableau donc, qui est attribué à Vincente Carducci. Carducci est rarement aussi bon que ça, que là.
En fait, Carducci n'a pas beaucoup de chance, parce qu'on lui donne aussi beaucoup de choses. C'était le principal rival de Velázquez. C'est un excellent artiste. Le Louvre a la chance d'avoir des très très belles esquisses de sa main. C'est un artiste auquel on a donné beaucoup de choses, beaucoup trop de choses, et qui souffre un peu justement d'attributions abusives au mauvais sens du terme. L'attribution de ce portrait de Simón de Rojas à Carducci
sur son lit de mort
est de Bill Jordan, qui a été un grand conservateur du Meadows Museum à Dallas,
et spécialisé en peinture espagnole,
spécialisé
dans l'art espagnol.
lui-même est un grand connaisseur d'art espagnol. Il est spécialiste de Juan van der Hammen, et il a d'ailleurs dans sa monographie de Juan van der Hammen publié ce tableau sous le nom de Cartuccio. Ce tableau est longtemps passé pour un Velasquez. Il porte au revers une inscription qui mentionne le nom de Zurbarán, et c'est Alfonso Emilio Pérez Sanchez, grande autorité velasquezienne s'il en est, qui, parce qu'il y a un document qui nous raconte que Velasquez a exécuté un portrait de ce moine sur son lit de mort, c'est Pérez Sanchez qui l'attribue à Velasquez. Il y a par ailleurs une fausse signature Velasquez sur le tableau. C'est une attribution qui, pour des questions stylistiques, ne tiennent pas, mais là aussi, il faut le temps à l'œil de se faire, il faut le temps à l'œil de mieux comprendre Velasquez, le temps à l'œil de mieux comprendre Carducho. C'est aujourd'hui chose faite, et je propose dans le catalogue une comparaison avec une vierge méditant les instruments de la passion qui a été achetée par un musée américain, le musée de la Duke University, je crois, il y a peu de temps, et qui présente des parentés formelles et stylistiques absolument évidentes.
Il y a peu de temps, donc il va falloir absolument que j'en parle dans la tribune. Il y a combien de temps à peu près, vous pensez?
Il y a un an et demi.
Un an et demi, donc on n'en a pas parlé, donc c'est une brève affaire. Il a un côté, Carducho, en tout cas, presque sculptural, très, très, très lisse, très...
Il a une matière très cireuse, très sèche, avec une touche qui est beaucoup plus courte que la touche de Velasquez. Velasquez est un peintre onctueux, crémeux, donc on n'a pas du tout cette même impression chez Carducho, mais ce tableau est magnifique au demeurant.
Rappelez-nous que, en fait, quand on a un portrait de Philippe IV, c'est forcément, sauf si c'est Rubens, c'est par Velasquez.
C'est forcément par Velasquez, sauf si c'est une réplique d'atelier.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, Carducho n'avait pas le droit de peindre Philippe IV.
Velasquez avait le monopole des portraits de Philippe IV à partir du moment où il est peintre du roi, à partir de 1623.
Ça a dû en agacer plus d'un, non, d'avoir un monopole comme celui-ci. Il était très jalousé, Velasquez.
Velasquez en a agacé plus d'un, et notamment Carducho. Après, Carducho n'était pas un portraitiste, et il avait même un certain mépris pour les portraitistes. Il a d'ailleurs fait courir le bruit à la cour que Velasquez n'était capable de peindre que des têtes, ce à quoi Velasquez a répondu qu'il en était fort aise, parce que personnellement, il n'avait jamais vu aucun autre peintre capable de peindre correctement une tête. Donc voilà, il y a eu un petit règlement de compte à la cour. C'était assez violent au moment de l'arrivée de Velasquez, quand on voit ce talent qui essaie de se faire de la place sur l'ancienne génération.
Alors vous présentez encore un tableau, là vous mettez un point d'interrogation, donc ça veut dire que vous n'étiez pas très sûr, et est-ce que vous en êtes un peu plus sûr maintenant? C'est une copie d'après Tintoretto. Vous expliquez pourquoi? D'abord, c'est vrai qu'une copie c'est difficile de l'identifier, mais d'abord on retrouve à peu près tout son historique, et puis surtout, c'est vrai que, surtout je crois, dans l'arrière-plan,
Non, je suis assez convaincu maintenant.
C'est assez proche de Velasquez, donc vous pensez que c'est bon en fait.
Je suis assez convaincu, c'est un tableau qui est très difficile, dont l'état de conservation n'est pas entièrement satisfaisant, mais qui est évidemment un tableau du 17e siècle. C'est évidemment une copie d'après Tintoret et pas Tintoret lui-même. Et il y a certains tics d'exécution qui rappellent, notamment dans la nappe à l'arrière-plan, un petit rehaut de blanc qui est très très similaire à d'autres choses qu'on voit chez Velasquez, notamment dans le tableau de Dublin, le Christ à Emmaüs.
Alors comme je vous dis, on aimerait parler tout. Vous avez quand même réussi à avoir la Rix de soldats devant l'ambassade de la galerie à Palavicini à Rome, ce qui est
tout à fait,
qui se déplace très peu.
Qui se déplace très très peu.
Là aussi, c'est un tableau qui a été finalement attribué assez récemment à Velasquez.
Non, pas du tout. C'est une attribution de... Oui, enfin, 40, ça dépend ce qu'on appelle récent du coup.
Mais
c'est une attribution de Roberto Longhi. Le tableau était autrefois attribué à Van Dyck, qui était peut-être une mauvaise lecture de Jacob Duck, qui est un peintre hollandais avec lequel, effectivement, le tableau a de très très loin plus d'affinité qu'avec le style de Van Dyck.
Alors on passera sur très joli, évidemment, vu des jardins de la Villa Médicis. Vous n'avez pas pris les deux parce que de toute façon vous ne pouvez pas prendre trop de tableaux. Et l'autre était dans l'exposition de Stéphane Noir sur le paysage.
Exactement, j'ai choisi, même si je préfère l'autre, j'ai choisi de présenter celui que le public parisien avait le moins
donc,
vu.
Donc Immanent, dont on est sûr qu'il est du premier séjour à Rome, 1630. Donc c'est plutôt que de 1650.
On n'est jamais sûr en histoire de l'armée, on en est convaincu en tout cas.
Oui, convaincu. Donc je suis obligé de passer beaucoup de choses et arrivons à la cour elle-même. Alors là, parlez-nous justement. On a abordé Juan del Mazo.
C'est Juan Bautista Martinez del Mazo.
Cet artiste auquel vous consacrez une. Alors, c'est une critique que j'ai entendue, mais je trouve qu'elle n'est pas fondée. Disons, finalement, ça se termine un peu sur votre exposition. Se termine sur del Mazo, sur d'autres peintres autour de Velasquez. Donc, finalement, ça fait pas une fin qui. Ça fait une fin un petit peu en chute qualitative. Bah moi, je dis que non, c'est drôlement intéressant de voir ce qui se passe après un artiste et surtout de redécouvrir cette figure. Finalement, il y a toute une salle de Juan del Mazo, ce qui veut Mario Bautista Martinez del Mazo, ce qui veut dire que maintenant, évidemment, on a une meilleure image de cet artiste. Donc,
je crois qu'il y a deux choses. D'abord, nous avons absolument voulu terminer l'exposition sur Velázquez, sur ce magnifique cheval blanc de Velázquez, sur l'autoportrait indiscutable du musée de Valence de Velázquez, sur l'autoportrait des offices dont, depuis quelques jours, je vois une participation de del Mazo dans cet autoportrait. Donc, on a voulu une fin assez spectaculaire et vraiment terminer avec Velázquez, avec le maître. Néanmoins, il y a aussi une question de responsabilité de faire une exposition comme celle-ci. Et l'une des responsabilités que l'on doit à Velázquez et au monde velasquezien, c'est de parler de ses collaborateurs. Parce qu'il y a deux moyens pour comprendre un artiste et pour comprendre son corpus. Il y a, une dynamique centrifuge, partir des œuvres les plus sûres, les plus documentées, les plus certaines de l'artiste et aller vers les marges, aller vers les œuvres moins certaines, aller vers les zones frontières. Et puis il y a l'autre technique, l'autre approche, qui consiste à partir de l'entourage du peintre et à aller vers le peintre. Donc Velázquez, on le comprend aussi mieux en comprenant mieux Martinez del Mazo, en comprenant mieux Juan de Parera, en comprenant mieux Pietro Martire Neri. Alors les autres collaborateurs de Velázquez sont évoqués avec parcimonie dans l'exposition. Del Mazo a sa salle, parce que je considère que Del Mazo mérite sa salle, parce que pendant trop longtemps, on lui a mis sur le dos, pardonnez-moi l'expression, des tableaux de mauvaise qualité qui lui ont donné une mauvaise réputation d'artiste. Cette exposition entend faire la preuve que si Del Mazo n'est pas Velázquez, mais personne n'est Velázquez, Del Mazo est un artiste avec sa personnalité, avec ses objectifs, avec son ambition, avec son talent. Et j'avoue que la plupart des réactions de mes collègues va plutôt dans ce sens et les gens sont plutôt agréablement surpris par la peinture de Velázquez, de Del Mazo. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup d'œuvres de Del Mazo très très bonnes sont passées pendant longtemps pour les chefs-d'œuvre de Velázquez. Je pense au portrait de l'infante Marguerite en rose et argent. Je pense au portrait du comte-duc d'Olivares, au portrait équestre du comte-duc d'Olivares du Metropolitan Museum. C'est quand même des tableaux qui sont absolument virtuoses et qui sont évidemment de Del Mazo pour le coup.
Alors il y a une chose qui m'a beaucoup plu dans ce que vous l'avez tenu à dire dès que vous avez parlé de cette exposition, c'est que vous n'avez pas voulu même les demander, vous ne l'auriez pas eu. Et vous pensez, et moi je pense aussi, qu'un tableau comme les Ménines, un tableau comme les Fileuses, un tableau comme la réédition de Bréda, en fait il y a quelques tableaux du musée du Prado qui ne doivent pas bouger, parce que ce sont des tableaux très grands d'un artiste majeur, et qui peut-être une question de fragilité, et puis surtout les gens qui viennent à Madrid veulent voir ces tableaux, donc vous ne les avez pas demandés, c'était une décision volontaire, et qu'en plus on peut montrer Velázquez sans ces tableaux, même si c'est vrai, on veut les voir, on va à Madrid.
Si vous voulez, l'enjeu de cette exposition, c'est aussi de montrer qu'on peut montrer Velázquez sans répéter le Prado, montrer un autre Velázquez que celui qu'on voit au Prado. C'est qu'on peut montrer Velázquez sans avoir les Ménines et les Fileuses. Effectivement, je considère, mais c'est sans doute parce que je suis, avant d'être commissaire d'exposition, conservateur de musée, je considère qu'il y a des œuvres qui ne doivent pas voyager, pas seulement pour des questions de fragilité, pour des questions morales, pour des questions déontologiques. Et c'est une éthique qui doit être réciproque. C'est-à-dire que c'est des tableaux à la fois qu'il ne faut pas laisser partir, qu'il ne faut pas prêter, et c'est des tableaux qu'il ne faut pas demander. Donc je ne voulais absolument pas des Ménines, même si je trouve que c'est un des plus beaux tableaux au monde, peut-être même le plus beau tableau au monde, mais je dois avouer que je suis assez ravi de la réception de cet argument auprès de vos confrères journalistes, auprès d'un certain nombre de publics qui comprennent tout à fait cet argument. Et c'est très important de faire de la pédagogie et d'expliquer que, eh bien, on ne peut pas tout se permettre avec des œuvres d'art, qu'il y a des choses qui dictent nos comportements et qu'il faut respecter. Ce serait par ailleurs atteindre au mystère des Ménines que de commencer à les faire voyager. La perception de ce tableau est tout autre s'il commence à faire le tour du monde, alors qu'il faut faire le pèlerinage de Madrid, faire le pèlerinage du Prado, aller dans la salle des Ménines, et puis dans la salle des Ménines, se dire, eh bien voilà, ce tableau, je ne peux le voir qu'ici, ce tableau, je n'ai que une heure, deux heures, le temps que j'y consacre pour le voir, donc j'ouvre mes yeux, j'en profite et je vis un instant magique.
Alors, je rassure les auditeurs, il y a beaucoup de tableaux majeurs de Velázquez, y compris du Prado, comme par exemple le Jésus ou le portrait de l'enfant Balthazar Carlos sur son bonnet. Donc, c'est vraiment.
Ah, c'est un chef-d'œuvre absolu. Non, si le Prado, je dois vraiment les en remercier, si le Prado ne prête que 7 Velázquez à l'exposition, ils ont prêté 7 Velázquez absolument majeurs.
Le Saint-Antoine Abbé et Saint-Paul œuvre majeure également, où on voit donc, c'est, je crois, un des premiers paysages, parce qu'à Rome, enfin, c'est pas le premier paysage, il y a le paysage de 1630 qu'on a vu tout à l'heure, les deux paysages, mais à Rome, il découvre le paysage, il découvre qu'on peut peindre le paysage, et ça a beaucoup
exactement, il n'y a pas de tradition du paysage dans la peinture espagnole, du moins au moment où Velázquez pratique cet art, et donc il découvre le paysage à Rome, au même moment où s'envole le paysage, Poussin, Duguay, Lorrain, et après les deux petits paysages des jardins de la Villa Médicis, eh bien, il va réaliser ce merveilleux tableau pour l'ermitage de San Pablo.
Alors dans les autres chefs-d'œuvre absolus, bien sûr, il y a la toilette de Vénus ou Vénus au miroir de la National Gallery, que vous avez mise en côté d'un hermaphrodite, d'un bronze de l'hermaphrodite qui se trouve au Louvre, dont on sait qu'il a un matelas.
Alors, dans l'exposition, la Vénus est à côté du marbre. Est à côté du marbre du
Louvre. Oui, donc c'est le marbre de Louvre avec un. N'oublions pas qu'il a que sur le marbre est couché sur un matelas du Bernin.
Du Bernin, exactement.
Pourquoi avoir cette comparaison? Effectivement, c'est le dos donc avec les fesses qui se ressemblent.
Qui se ressemblent, qui se répondent. Non, en fait, c'est une comparaison ancienne, hein, qui n'est pas du tout l'idée n'est pas de moi à la base. On ne sait pas exactement quand est-ce que la Vénus a été peinte. Peut-être pendant ce second voyage à Rome, en l'année 1650. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Velázquez connaissait l'hermaphrodite endormi, d'ailleurs il devait forcément le connaître ne serait-ce que par la gravure, c'est l'un des antiques les plus célèbres de l'époque moderne, mais on sait également que lors de ce second voyage à Rome, il en fait faire un moulage et il en fait tirer un bronze pour Philippe IV, bronze de l'hermaphrodite qui est présenté au Prado dans la salle des Ménines aujourd'hui. Donc l'idée était eh bien de à la fois en termes scientifiques et scénographiques, de confronter, de faire dialoguer sans qu'il se gêne. Donc on a trouvé, je crois, avec le scénographe un bon angle pour représenter, enfin pour installer ces deux chefs-d'œuvre dans la salle et donc proposer ce dialogue formel. Dialogue formel qui, pour être sincère, ne me convainc pas absolument entièrement. En revanche, je pense que le vrai lien, s'il y a entre les deux œuvres, c'est un lien narratif. C'est-à-dire que Velázquez aime jouer sur les aspects visibles, non visibles, face, revers, tableau dans le tableau, surprise dans le tableau. Or, l'hermaphrodite endormi est une sculpture à surprise, est une sculpture qui se révèle quand on en fait le tour, est une sculpture qui cache son sexe d'un côté ou de l'autre. Eh bien, c'est sans prétendre que, évidemment, que Vénus est un hermaphrodite, c'est la manière dont Velázquez joue aussi dans ce tableau qui nous cache son visage tout en, ou plus exactement, qui nous révèle son visage tout en le cachant, puisque le reflet du visage de Vénus est complètement brouillé, qui entretient un mystère, qui entretient une énigme, qui piège le regard du spectateur pendant une durée assez longue dans ce tableau et qui joue sur ce côté visible-invisible, ce côté face-revers, etc.
Alors abordons maintenant un tableau qui est celui du musée de Castres, enfin, du musée du Louvre déposé à Castres. Alors, j'ai seul un petit reproche à vous faire, Bénin, mais vous croyez à des traductions à Velázquez, et oui. Je veux dire que ça fonctionne effectivement très bien, donc c'est amusant, parce que c'était peut-être le seul Velázquez authentique du Louvre qui finalement a été déposé à Castres, parce qu'on pensait que c'était une variante d'atelier d'un tableau qui se trouve au musée du Prado. Mais en 2011, il a été... Alors, c'est dans une revue de livres, etc., mais sur la Tribune de l'Art, Jacques Foucard avait déjà dit « c'est probablement un Velázquez », et là, il avait mis Diego Velázquez, d'autorité. Vous ne l'avez pas cité. Internet est aussi une bibliographie.
C'était simplement pour vérifier, Didier, si vous lisiez le catalogue jusqu'en dans ses moindres détails, je constate avec satisfaction que voilà. C'est le cas. Non, simplement, cette attribution, je ne l'attribue pas à titre personnel. Nous étions plusieurs historiens de l'art à croire dans les qualités de ce tableau, à commencer par Jean-Louis Auger, le conservateur du musée de Castres, qui a toujours cru dans la paternité de Velázquez pour ce tableau, il faut lui rendre hommage, et qui a toujours présenté à Castres ce tableau comme un original de Diego Velázquez, malgré des classements que d'autres auteurs avaient fait. Donc ce n'est pas du tout une redécouverte personnelle de ce tableau, mais nous étions donc plusieurs à avoir envie de donner sa chance au tableau, si je puis dire, et c'est là que l'exposition prend tout son sens, parce que l'exposition, c'est une épreuve de la réalité, et le test, ça a été eh bien d'accrocher ce tableau entre deux chefs-d'œuvre absolus de Velázquez, le portrait équestre de Balthazar Carlos et le Saint-Antoine et Saint-Paul au désert. Et eh bien, je trouve que le tableau tient et ce qui semble tout à fait conforter l'attribution à Velázquez.
Une question, alors là, je ne sais plus où on en parle, mais on en parle, vous en parlez dans le catalogue sur. Donc c'est peut-être, je sais pas, au point de vue chronologique, on n'est peut-être pas au point de vue de l'avancement dans l'exposition, on n'était pas au bon endroit, mais je me pose la question sur Juan Velázquez. Qui est Juan Velázquez et qu'est-ce qu'on sait de lui? Parce que finalement, c'est le frère, hein, vous nous allez dire un peu plus, mais est-ce qu'on connaît quelque chose de lui? De temps en temps, il y a des hypothèses. J'ai un peu l'impression que le problème, c'est que quand on connaît rien d'un artiste, on peut faire des hypothèses, mais bon, rien ne.
Alors, ce qu'on sait de Juan Velázquez, c'est que c'est le frère cadet de Diego Velázquez, c'est que lui aussi a embrassé le métier de peintre, c'est qu'il collabore avec Velázquez à Séville et qu'il le rejoint à Madrid, c'est qu'il meurt à Madrid en 1631. Voilà, en gros, ce qu'on sait de Juan Velázquez. On ne peut lui attribuer aucune œuvre. Moi, je suis tenté de reconnaître sa main dans la version, la copie d'atelier de l'homme au verre de vin du musée de Toledo dans
le royaume. Copie d'atelier qui se trouve en France.
Du premier état du Démocrite de Rouen, pour une raison très simple, c'est que ce tableau me semble très proche d'une autre variante d'après Velázquez qui existe, que vous avez ici. Donc nous sommes dans la notice numéro 57.
Page 218.
Voilà, qui est ce tableau en collection particulière, qui représente dans un intérieur de taverne qui appartient complètement à l'univers sévillan de Velázquez, eh bien, les personnages que l'on trouve dans Les Buveurs de Velázquez, qui est un tableau madrilène. Or, le seul, en tout cas, artiste documenté aux côtés de Velázquez qui connaisse à la fois son univers sévillan et son univers madrilène, c'est Juan Velázquez, qui meurt en 1631. Donc, il a pu connaître Les Buveurs, par exemple. Donc, c'est encore très spéculatif. C'est pourquoi vous aurez observé que le tableau de Toledo, je le mets comme atelier de Diego Velázquez et je ne cite Juan que dans la notice.
C'est mais ça. Je vous prouve encore une fois que j'ai lu la notice. Mais je n'ai pas encore terminé le catalogue, mais je cite la notice entièrement. On va avancer un peu parce que autrement on ne parlera pas du reste. Il y a l'attribution la plus récente, c'est un tableau d'une collection particulière. Sébastien de Huerta, c'est une des plus belles des redécouvertes récentes.
Exactement, selon Jonathan Brown, c'est l'un des plus importants Velázquez redécouverts ces 10 dernières années.
C'est un tableau impressionnant d'un inquisiteur.
D'un inquisiteur, Sébastien de Huerta, un tableau vers 1626 certainement.
Finalement, vous accrochez pas très loin, je crois, du tableau de Martinez Montañez, portrait de Juan Martinez Montañez. C'est vrai que ça fonctionne extrêmement bien. Peut-être un petit reproche. Je sais que vous n'aviez que 7 tableaux, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre quand même au moins un tableau de nain? Alors, je sais qu'il y a le portrait de l'enfant Balthazar Carlos avec un nain, mais c'est quand même, les nains de Velázquez, c'est quand même une des choses importantes, et c'est vrai que c'est un aspect qui manque peut-être un petit peu. Alors, vous avez un fou.
Alors, il y a deux nains, en fait, dans l'exposition. Il y a Juan de Calabasas, qui est nain, le tableau de Cleveland, et il y a celui qui est avec son petit moulin à vent dans les mains.
Et c'est
un nain seul dans un tableau de Velázquez. Alors, personnellement, je ne suis pas convaincu de l'attribution.
Vous êtes en train d'arriver pour les éditeurs. Il va falloir acheter le catalogue, hein, bien sûr.
Quoi qu'il arrive.
Écoutez cette émission et regardez l'exposition, mais écoutez cette émission en regardant le catalogue.
Voilà, c'est celui-ci. L'autre nain, c'est dans le double portrait de Balthazar Carlos avec son nain. Alors, effectivement, mais regardez la taille du meuble. J'ai dû faire des choix sur ces 7 tableaux, des choix qui ont été douloureux, mais qui obéissaient. Ma priorité, ça a été la cohérence du discours. Et dans les 7 tableaux, eh bien, dans la mesure où j'avais déjà un bouffon et que Pablo de Valladolid me semblait plus important, surtout en France et surtout après ce qu'on a dit Manet, j'ai préféré effectivement prendre un nain.
On ne peut pas tout avoir, mais c'est pas très grave.
Et Lopez Rey, par ailleurs, attribue à Velázquez une autre version du Sébastien de Mora, qui est le nain le plus célèbre. C'est un tableau auquel je ne crois pas, donc par honnêteté, je n'ai pas voulu le mettre dans l'exposition comme Velázquez.
Autre chef-d'œuvre absolu, enfin c'est extraordinaire d'avoir ce tableau, c'est le portrait du Pape Innocent X de la galerie Doria Pamphili. Chef-d'œuvre assez incroyable, on a un peu peur d'être devant lui parce que franchement, Velázquez a bien pris son. On n'a pas l'impression qu'il avait envie de trop trop rire. Vous mettez devant une étude pour le portrait du papier 910 de Washington. Donc, pour vous, c'est une étude pour le tableau, autographe.
Exactement, c'est une étude. C'est le mot m'a été soufflé par un artiste à qui j'ai fait visiter l'exposition récemment. C'est une prise de notes. Il faut comprendre ce tableau comme une prise de notes. Malheureusement, on est très gêné dans son appréciation par un repeint très grossier du costume en bas. C'est un tableau qui était évidemment, comme c'est une étude, qui n'avait pas vocation à être terminé et qui a été, pour des motifs esthétiques ou commerciaux, terminé par un autre artiste assez grossier. Mais si on prend la peine de se focaliser, de se concentrer sur le regard, sur la construction de la volumétrie du visage et notamment de l'oreille, on voit que c'est là aussi un chef-d'œuvre absolu, avec des effets qui peuvent paraître faussement grossiers, qui sont des effets de placement de lumière, d'étude de lumière, d'étude des chairs, d'étude du modelé, des modulations du visage, qui sont très proches d'un autre tableau important présenté dans l'exposition, qui est le portrait de cette jeune paysanne, qui, là encore, j'invite nos éditeurs à s'en rendre compte par eux-mêmes, et bien, là encore, c'est une étude, ça n'est pas un portrait inachevé, on voit les mêmes empattements, les mêmes lumières posées par touche assez large, et c'est là encore, c'est un chef-d'œuvre absolu.
Alors, on va quitter Velázquez pour aller voir un petit peu Rivera pour cette fin d'émission. Enfin, on ne quitte pas tout à fait Velázquez, on parlera après des ouvrages parus sur Velázquez, dont le vôtre. Si Velázquez, finalement, il n'y a pas beaucoup de Velázquez au Louvre, ou peut-être pas du tout, en tout cas, au Louvre même, il y a de plus en plus de Delmaso, puisqu'on parlait de Delmaso, puisque la fonte marguerite du Louvre, qui a encore quelques temps a été exposé comme Velázquez, mais qui n'était pas convaincant de vous l'attribuer à Delmaso, qu'il y a un portrait de femme qui a été attribué par Pierre Curie à Delmaso, qui fonctionne bien dans l'exposition, et la réunion de 14 personnages, qui est encore un ancien Velázquez du Louvre, mais qui n'est plus du tout, et qui est comme Delmaso, donc finalement le Louvre a 3 Delmaso.
Le Louvre a 3 Delmaso, oui.
Voilà, tout à fait. Donc, il faudrait parler aussi de pas seulement Delmaso, parce qu'il y a Juan de Parera, qui serait passionnant, qui est un esclave affranchi.
Qui est un esclave affranchi le 23 novembre 1650 par Velázquez, affranchissement qui ne prendra effet que 4 ans plus tard, selon le.
Donc, on connaît un portrait. Alors, encore une occasion ratée, là, malheureusement, le Louvre avait essayé de l'acheter, un tableau qui a été acheté par la Metropolitan Museum, qui est un portrait par Velázquez de Juan de Parera. On pourrait parler de José Antroce, d'Antolinez, etc. Mais bon, voilà, on va peut-être quitter Velázquez. En tout cas, une exposition, évidemment, qui est franchement à voir absolument. Je pense que ceux qui ne la verront pas, vraiment, vont le regretter longtemps. Une deuxième exposition dont j'ai déjà parlé sur la Tribune de l'Art, puisqu'elle était à Rennes, c'est l'exposition donc, sur Rivera l'Apostolado, que j'ai vue aussi à Strasbourg, dans une mise en scène un peu différente. C'est toujours passionnant de voir les expositions dans deux endroits différents, parce qu'on voit toujours des choses nouvelles. En plus, celle de Rennes, celle de Strasbourg, vous nous en parlerez peut-être à ce tableau de l'angle qui est venu. Donc, bien sûr, je ferai un petit article à ce propos encore. Dites-nous un mot, cette exposition, est-ce qu'elle vous a appris des choses différentes par rapport au tableau de l'angle, le fait d'avoir en comparaison. Et dites-nous aussi un mot de ce tableau magnifique qui a été retrouvé par Michel Laclotte, je crois, dans les réserves de Montauban.
De Montauban, oui, tout à fait.
Un superbe Rivera.
En fait, c'est ce qu'on appelle une exposition dossier, qui sont très sincèrement les expositions les plus agréables et les plus passionnantes
à faire. C'est une grosse exposition dossier, quand même, parce qu'il y a quand même. Ça, en tout cas, ça vaut le déplacement. Ça, je le dis.
Ah oui, oui.
Il y a des expositions dossier, mais il y a deux ou trois œuvres.
Non, là, il y a une douzaine d'œuvres, une quinzaine d'œuvres. Non, c'est une grosse exposition dossier, mais par exposition dossier, je ne veux pas dire modeste, je veux dire concentré, resserré, qui d'ailleurs est très bien accueilli par le public et à Rennes et à Strasbourg, parce que c'est une exposition avec laquelle on peut repartir avec une compréhension réelle d'un sujet pointu en histoire de l'art, mais rendu complètement accessible aux visiteurs. Donc cette exposition, en fait, est née d'une série de concours heureux de circonstances et d'acquisitions en l'espèce. L'acquisition par le Musée du Louvre en mars 2012 d'un Saint-Jean l'Évangéliste passé en vente à Drouot, et l'acquisition en 2013 par le Musée des Beaux-Arts de Rennes d'un Saint-Jude Thaddée sorti sur le marché de l'art à Paris dans la galerie Tarantino. Ces deux tableaux appartiennent à un même apostolado, c'est-à-dire à une série représentant les apôtres autour du Christ, dont on identifie six œuvres aujourd'hui. Donc il en reste sept à retrouver, 12 apôtres plus le Christ. Et bien, ce concours des circonstances nous a donné envie, à Guillaume Caseroni et moi-même, dans un premier temps, de faire un dossier. Et nous a rejoint dans l'aventure notre collègue et ami Dominique Jacquot, qui n'est pas du tout étranger à la cause, si je puis dire, parce que d'abord, c'est un grand connaisseur du caravagisme. Et par ailleurs, le musée de Strasbourg possède l'un des morceaux clés de l'énigme du maître du jugement Salomon devenu le jeune Ribera à Rome, à travers le portrait de Saint, enfin, le tableau de Saint-Pierre et Saint-Paul du musée de Strasbourg, tableau signé Ribera et qui pourtant a été donné au maître du jugement de Salomon pendant longtemps. C'est une exposition qui a ceci de passionnante qu'elle est une énigme, c'est une enquête d'histoire de l'art et qui, là encore, trouve vraiment l'adhésion et la passion du public et en Bretagne et en Alsace.
Et le tableau de Montauban qui est attaché de la préférence
et le tableau de Montauban, parce que là, une personnalité tout à fait clé pour ce sujet, c'est évidemment Michel Laclotte, qui est l'un des grands redécouvreurs de tableau de ce maître du jugement de Salomon. C'est lui qui a découvert le tableau de Langres, c'est lui qui a découvert le Saint Matthieu de l'Apostolado, c'est lui qui a découvert le Christ de ce même Apostolado dans l'église de Nivillac, c'est lui qui, comme vous l'avez dit, dans les réserves de Montauban, a identifié un apôtre, vraisemblablement un Saint Jacques le Majeur, et qui a reconnu l'œuvre du maître du jugement de Salomon devenu Ribera.
Il y a encore des gens qui doutent de l'identification du maître du jugement de Salomon avec Ribera. Ça paraît maintenant tellement évident, alors qu'on l'a longtemps... Moi, quand je commençais à faire l'histoire de l'art, j'ai visité l'exposition la peinture américaine, la peinture française dans la collection américaine, faite par Pierre Rosenberg, quand même un des plus grands connaisseurs au monde. Et on croyait encore à l'époque, Pierre Rosenberg, mais tous les spécialistes en fait pensaient que c'était un peintre français.
Bien sûr.
Et finalement, ça s'avère être Ribera.
C'est un peintre espagnol. C'est très étonnant.
Et encore une fois, ça incite, comme beaucoup de choses, à la modestie quand on fait l'histoire de l'art.
Exactement. Mais par ailleurs, il faut le temps que le regard se fasse, et ça vient aussi un peu limiter les distinctions trop rigides que l'on fait entre les écoles nationales. Rome est une ville internationale. Les artistes espagnols frayent avec les artistes flamands, avec les artistes français, avec les artistes italiens. Donc, au bout d'un moment, la question de la nationalité n'est pas une chose aussi étanche qu'on voudrait bien le croire, y compris stylistiquement. Ensuite, pour répondre au début de votre question sur les gens qui résistent encore, je crois que la thèse de Gianni Papi est aujourd'hui acceptée dans son principe. Ce sont les tableaux qui, au cas par cas, peuvent encore être discutés. Et il y a toujours des gens, parfois des gens juste pour faire le malin d'ailleurs, qui ne sont pas convaincus par certains tableaux, et d'autres qui ne sont pas convaincus pour en toute honnêteté, qui voit plusieurs mains dans cet ensemble. C'est un cas qui est difficile, qui reste difficile. L'exposition de Rennes et Strasbourg ne prétend pas montrer un nombre suffisamment grand de tableaux pour démontrer la thèse de Gianni Papi. La thèse de Gianni Papi a été démontrée par Gianni Papi dans plusieurs publications, par une exposition qui a eu lieu au Prado et à Naples. Je crois que c'était là qu'il fallait la voir. Là, c'est vraiment une exposition qui est centrée sur le premier apostolado et qui essaye de faire comprendre l'énigme Ribera à Rome.
Alors, une petite question, Velasquez, à propos de cet apostolado. D'abord, on voit qu'on retrouve et qu'on peut retrouver encore, il manque encore des apôtres de Ribera, donc on peut espérer, en plus on sait à peu près qu'ils sont tous ressurgis en France, donc il y en a certainement en France qu'on pourra peut-être chiner.
Et puis on en a eu une image à travers un tableau que Pierre Curie avait publié sur la Tribune de l'Art, et vous observerez que dans le catalogue, l'article est dûment cité dans la bibliographie de Ribera. Donc en fait, on connaît leur visage, on peut commencer à les chercher. Oui.
Et alors, Velasquez, dans l'exposition, il y a deux apôtres, donc il a probablement peint au moins aussi un apostolado, mais là il y a beaucoup à retrouver.
Alors il y a deux apôtres, peut-être trois apôtres, si on considère que le fragment du musée de Séville, qui est un dépôt du Prado, pourrait appartenir au même apostolado. Il y a peut-être effectivement d'autres apôtres de Velasquez à trouver. Il ne faut d'ailleurs pas désespérer qu'ils ressurgissent un jour. On se poserait pas la même question si les apôtres subsistants étaient Saint Paul et Saint Pierre. On aurait pu dire que les deux apôtres fonctionnent en pendant. Saint Thomas et Saint Paul ont trop peu de choses à voir pour penser qu'ils fonctionnent simplement ensemble tous les deux.
D'ailleurs, Saint Paul remplace en fait Judas dans l'apostolado.
Souvent, Saint Paul remplace Judas, effectivement.
Parlons un mot sur votre action au Louvre. Donc, vous avez beaucoup acheté finalement depuis que vous êtes arrivé, ce qui est bien. Vous avez acheté, si on fait le bilan, hein, ces deux
Alors,
tableaux de Corée.
c'est le Louvre qui achète, hein. Moi, je ne fais que proposer
Bien sûr,
les
non,
réquisitions.
quand je dis vous, je veux dire vous, enfin, le Louvre, enfin, c'est un ensemble finalement. Mais c'est vous qui avez proposé des
Oui,
achats.
non, c'est moi qui ai
Bien
proposé.
sûr, c'est le Louvre qui a fait une très bonne politique d'achat espagnole, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas acheté depuis très longtemps et que c'est une collection qui peut être encore complétée.
Bien sûr.
Donc, il y a deux Corcuera de Vivar qui ne sont pas mes tableaux favoris, qui sont deux tableaux. Dites-nous un peu de ce.
La peinture du XVIe siècle espagnol est rare et mal, peu représentée au musée du Louvre. Ces deux tableaux sont arrivés en vente à l'automne
Comme
2010, si je me
toutes
souviens
ces
bien.
acquisitions ont fait l'objet d'une brève sur la tribune de l'art. Vous pouvez la retrouver.
Et par ailleurs, Corrêa de Vivar est un artiste qui n'est pas représenté du tout dans les collections
Française.
françaises, mais absolument pas du tout. Voilà, le Louvre est un peu le vaisseau amiral des musées. Des musées de France, et donc il me semblait important de proposer cette acquisition pour que Corrêa de Vivar, qui est un artiste important, qui représente la peinture à Tolède avant l'arrivée de Greco, soit présent dans les collections
Ensuite, deux
publiques.
chefs-d'œuvre, le Maillot qu'on voit là pour la première fois, parce qu'il a subi une longue restauration, enfin que j'ai subi, il a bénéficié d'une longue restauration. C'est un
Tout à fait.
chef-d'œuvre.
C'est absolument un chef-d'œuvre, c'est le trait d'union entre Caravage et Velasquez.
Le Ribera, donc, qui est exposé avec les autres à Strasbourg actuellement, un Eugenio Carrés, donc c'est une partie d'un grand retable, si j'ai bien compris, c'est
C'est un compartiment. Les retables espagnols sont des retables monumentaux. C'est très certainement un compartiment d'un grand retable qui, pour l'instant, n'est pas encore identifié, mais on y travaille.
Et un tableau de Gonçal Peris, un artiste rare, mais très très beau, hein, primitif en fait.
Un artiste valencien du 15e siècle. C'est un tableau absolument magnifique.
Il sera exposé ou pas encore?
On est en train, il fallait l'équiper d'une cornière pour des raisons de sécurité et de conservation, et on est en train de programmer son accrochage après sa présentation aux amis du Louvre.
Alors, pour terminer, évidemment, une exposition comme celle du Grand Palais occasionne beaucoup de publications. D'abord, votre propre publication, parce que Guillaume Kintz ne s'est pas contenté d'écrire une grande partie du catalogue et de le superviser, de faire l'exposition, mais il a écrit un Velázquez, l'affrontement de la peinture, dont je parlerai également, parce que je l'ai lu de A à Z. Là, vous vous êtes concentré uniquement sur Velázquez. C'est-à-dire que là, alors, à la fin, vous avez un petit catalogue pour. Pas vraiment raisonné, mais c'est juste
un catalogue sommaire,
un catalogue sommaire pour dire voilà ce que vous pensez de Velázquez, pas de Velázquez, etc. Mais c'est la carrière de Velázquez avec alors c'est édité par Cohen et Cohen, une nouvelle maison d'édition qui, je dois dire, fait un travail absolument remarquable parce que la publication est magnifique, les illustrations sont superbes, il y a beaucoup de comparaisons. Donc c'est vraiment enfin moi j'ai beaucoup aimé hein, ce livre. Hein, en deux mots, vous avez voulu faire quoi par rapport au catalogue d'exposition? Vous ne vouliez pas faire la même chose, évidemment, que vous ne vouliez pas faire deux fois la même chose.
Non, le but effectivement de ne pas faire deux fois la même chose, mais je me suis rendu compte que même si le projet du livre est bien antérieur au début de la rédaction et même au début de la conception intellectuelle du catalogue, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas dire dans le catalogue la même chose que dans le
livre. Il y a
livre.
Des choses qui sont ressemblent, par exemple, l'apport de la sculpture pour
Bien sûr,
Velázquez,
ah bah,
évidemment, ça se
vaut mieux
que
le
choses,
vaut mieux que le livre et le catalogue ne se contredisent pas
Exactement.
Dans l'idée de Velázquez. Mais le catalogue est vraiment une rencontre avec l'univers pictural de Velázquez. Je ne me suis intéressé à Velázquez peintre, et uniquement à Velázquez peintre, pas du tout à son rôle à la cour, à sa carrière de courtisan ou de décorateur des résidences royales. C'est vraiment sur sa peinture que je veux me concentrer. J'ai voulu faire un livre de peinture dédié à la peinture. Et uniquement effectivement centré sur Velázquez sans ouvrir enfin, à ses contemporains, si, mais sans ouvrir à ses suiveurs, à ses collaborateurs. Je crois que ça, c'était vraiment le sujet de
Parce qu'une analyse
l'exposition.
très fine de la peinture de Velázquez. Donc, c'est un ouvrage paru chez Cohen et Cohen, donc je recommande l'achat. Un autre, alors ça, c'est un très 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 gros livre publié par Taschen et la Fondation Wittgenstein. Alors c'est une réédition, c'est-à-dire que c'est peut-être sa limite, en même temps c'est aussi un très très beau livre, c'est-à-dire que simplement il est tellement énorme qu'il est compliqué à lire, il y a énormément beaucoup d'illustrations, mais c'est la réédition en fait de l'ouvrage de José López Rey, qui est un des grands spécialistes de Velázquez, mais qui a édité plusieurs fois ce catalogue, il y a eu plusieurs rééditions, La dernière date, de, si je ne me trompe pas, de 1991, en tout cas, donc c'était...
Il est mort en 80, je crois que la dernière est de 96 ou 97.
96, voilà, c'est ça. Donc, enfin, donc il l'a revu jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'est un historien de l'art qui est décédé il y a 20 ans, donc forcément, ça date un peu. Il y a des œuvres qu'il attribue. Alors ça a été Odile Delenda, qui est une des plus grandes spécialistes françaises de la peinture espagnole, qui a écrit sur Zurbarán, etc., fait une montre quelques œuvres qui sont réapparues récemment, mais c'est pas vraiment une mise à jour. Donc c'est voilà, c'est à la limite d'être quelque chose qui date un peu. En même temps, c'est un des grands historiens de Velázquez. Alors vous n'avez pas forcément il y a certaines attributions que vous mettez en cause ou certaines œuvres dont vous dites que c'est pas forcément de Velázquez alors qu'elles sont dans ce catalogue.
Oh bah c'est l'exercice. Je ne partage pas tous les avis de voilà. López Rey, mais peut-être en aurait-il d'ailleurs changé lui-même.
C'est ça, voilà, il aurait pu en changer, mais voilà. Donc en tout cas, c'est un livre qui, le seul inconvénient de ce livre, je vous dirais, c'est qu'il est très 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 lourd et très 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 gros et très difficile à manier. Signalons également, on nous l'a envoyé, c'est toujours l'édition Faton publie Dossier de l'art sur les. Et c'est donc, il y a d'ailleurs, vous pourrez lire une interview, un entretien avec Guillaume Kins, que je dois dire, je n'ai pas lu avant de faire celui-ci, donc sans doute certaines réponses se recoupent, mais j'espère que ça se complétera bien. Ça permet d'avoir beaucoup de reproductions de bonne qualité dans un dossier de l'art qui n'est pas excessivement cher, puisque c'est pour 9,50€. Merci Guillaume Kins d'avoir répondu à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé dire sur Velázquez ou sur la peinture espagnole en général? On aurait pu parler de l'actualité de la peinture espagnole, on aurait pu parler de beaucoup de choses.
Eh bien non, je voulais simplement inciter tous nos auditeurs à aller voir l'exposition Velázquez, à se passionner pour Velázquez, et j'espère à être au rendez-vous de la grande souscription que nous ne manquerons pas de faire le jour où le Louvre aura trouvé un tableau de Velázquez et où nous nous lancerons dans cette grande aventure qui viendrait combler la lacune principale de ce musée, en tout cas pour les peintures.
Est-ce que le tableau de Castres, finalement, alors ça, je ne vous demanderai pas si vous allez le reprendre, parce que ce serait politiquement, je pense que vous ne pouvez pas répondre. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Jean-Louis Auger serait certainement pas très content qu'on ait retrouvé un tableau. Mais c'est un tableau qui appartient au Louvre, finalement.
C'est un tableau qui est un dépôt du Louvre au musée de Castres depuis 1940.
Désolé de ne pas vous avoir pu faire cette émission en direct. Il y a eu des circonstances techniques indépendantes de notre volonté. Mais comme vous êtes en train d'écouter cette émission, vous savez que nous avons pu contourner cet obstacle et que l'émission donc, est en écoute, d'ailleurs, pour tout le monde, abonné ou non abonné, dès maintenant. Merci beaucoup. À bientôt.